Vieux-Salvador et sur une zone désertique. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien qui pousse. C'est vraiment, ça a été la croix et la bannière pour développer cette ville. Mais le Pérou, par contre, est un des rares pays au monde où, si mes souvenirs sont bons, il y a 90% des niches écologiques de la planète qui sont au Pérou. Enfin, je m'exprime clairement parce qu'avec les chiffres, on
discute. Mais il y a tellement de climats différents, voilà, tu vis dans le Pérou.
Il y a, dans le monde, 100% de niches écologiques différentes, réparties dans le monde. Eh ben, 90% existent au Pérou. Elles peuvent exister ailleurs, mais au Pérou, il en existe 90%.
Oui, parce qu'ils ont des montagnes,
c'est
ils ont des vallées, ils ont
il y a des niveaux. C'est d'une richesse écologique. Et là, c'est pas seulement. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler dessus. C'est que et les gens de El Salvador sont les héritiers de ça, d'une certaine manière. Le monde andin. C'est que cette richesse écologique. De plus en plus, tu te rends compte, un peu comme l'Amazonie d'ailleurs, que c'est pas le produit du bon Dieu, et que c'est pas le produit du hasard, et que c'est pas simplement le produit de Dame Nature. C'est le résultat d'un travail intelligent de l'homme sur son environnement depuis des milliers d'années. Mmh. C'est l'humain qui, travaillant au plan agricole, dans des relations avec les arbres, les machins, les plantes, etc., développe un environnement qui s'avère ensuite être extrêmement riche dans sa diversité. L'homme y est pour beaucoup. Ils ont, on va dire qu'ils ont des milliers d'années de travail, de relation avec la Terre, qui est à peu près à l'inverse dans l'orientation de ce que nous, on a développé depuis 2 siècles. Enfin, ce que nous, moi, j'ai rien développé du tout, personnellement.
C'est pas vrai, c'est de sa faute.
On est à peu près à l'envers. Mmh. Donc, voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais ouais, les paysans, ils viennent à la ville pour accéder à la culture, etc. Attention, les paysans, et souvent les paysans ont conscience aussi, qu'ils sont issus d'une grande histoire et d'une grande culture. D'où leur colère permanente, leur courroux permanent, parce que on est dans un pays qui est incroyablement raciste. Et je reviens à Villa Salvador là-dessus, c'est que un des impacts à mes yeux, mais pas tout seul, hein, y a plein de gens qui l'admettent au Pérou, c'est que un des impacts majeurs de Villa Salvador, ça a été la modification profonde du comportement de la société dans son ensemble quant à la question des origines ethniques, des origines raciales, c'est très mauvais, des origines culturalo-ethniques. C'est-à-dire que avant, franchement, jusque dans les années 70, quelqu'un d'origine africaine descendant d'esclaves, c'était vraiment un moins que rien ou une moins que rien. Un paysan descendant des Andes, jusqu'à une période post-coloniale, il n'avait même pas le droit de rentrer dans Lima à partir d'une certaine heure de fin d'après-midi. Et la ville blanche se protégeait de tous ces sauvages. À Villa El Salvador, s'est créée une culture de métissage culturel et social comme il n'avait jamais existé auparavant au Pérou, avec des dirigeantes, en particulier une qui s'appelait Maria Elena Moyano, qui était une métisse de descendants d'Africains, qui a joué un rôle majeur là-dedans. Un, pour la reconnaissance des femmes, deux, pour la reconnaissance de qui elle était, et d'ailleurs, y compris de dire, et j'ai aussi le droit de revendiquer, de ne rien revendiquer de mes origines, je suis moi. Hop, ils n'avaient pas le luxe, ils pouvaient pas s'offrir le luxe. C'est un peu polémique ce que je veux dire, mais ils pouvaient pas se payer le luxe à l'époque, vu les urgences sociales absolues, se payer le luxe de trop longues polémiques sur les questions ethniques. C'était égalité. Nous sommes tous des citoyens péruviens. Je suis noir, t'es blanc et je t'emmerde. Voilà, voilà. Ou pas. Ça dépend de toi et ça dépend. Voilà. Et on peut avancer ensemble. Et donc, ça, c'est déterminant. C'est-à-dire que maintenant, au Pérou, ça n'étonne plus personne que un gamin qui sort de Villa El Salvador et qui a 20 ans aujourd'hui soit le fils d'un petit commerçant qui lui-même est le fils d'un agriculteur illettré d'il y a 50 ans, et que ce gamin soit, à l'heure actuelle, responsable d'un théâtre à Montréal. Waouh. Un petit-fils de paysan des Andes, il est il fait du théâtre à Montréal, il est directeur d'un théâtre à Montréal, l'autre il est écrivain, l'autre il est ci, le tien. Waouh.
Mais je crois qu'on va terminer là-dessus.
On a fini ?
Ben oui. On a fini. C'est bientôt.
C'est bientôt
le proton se rebiffe.
C'est bientôt le proton se rebiffe. Donc, j'avais un truc encore à dire. Et ben, soit ça sera pour une autre émission, pour si tu veux revenir.
Ben oui,
puis on abordera on finira l'économique et on emboîtera sur le politique ou je sais pas. Mais puis surtout que tu devais partir tôt parce
c'est
que
ça, il faut que je parte.
Voilà. Ça on va dire au revoir parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jean-Michel.
Ouais, oui.
Il est venu exprès à l'émission, il est fallu venir exprès, mais c'est
go
son anniversaire le 18.
Michael, go first, Thursday.
Bravo, bravo.
Bah, merci d'être venu. Nous, on va se retrouver le 2 octobre pour une émission sur le fantasme de la République avec un petit focus sur Eugène Varlin pour le 184e anniversaire. En fait, ce sera le 5 octobre, mais nous, on va faire ça le 2. Et puis... je vous annonce quand même que le samedi 23 octobre, au CICP 21 rue Voltaire, dans le 11e, métro rue des Boulets, se tiendra le marché solidaire animé, entre autres, par plusieurs membres du secrétariat international de la CNT, avec distribution de cafés à pâtisses de 14 à 20h, un marché solidaire de 14 à 19h, avec le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques, voilà, comme ça on reste dans le thème, le Milpa, donc c'est l'artisanat du Chiapas, c'est entre ici et là, artisanat de Palestine, avec un apéro discussion de 19h à 21h sur l'actualité des coopératives et plus largement au Chiapas, avec trois personnes d'échange solidaire qui ont été là-bas cette année. Voilà, il y aura bar et petite restauration sur place.
Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Ce soir, c'est le proton se rebiffe. Et nous allons parler ce soir d'un livre fort bien écrit et tout à fait d'actualité, même si il a été publié il y a 2 ans, et qui s'appelle « Le linceul du féminisme », sous-titre « Caresser l'islamisme dans le sens du voile ». C'est de Naem Bestanji et ça a été publié aux éditions Ceramis. Donc on voit tout de suite qu'il s'agit d'un livre sur... Le voile islamique, et j'aurais plutôt tendance à dire, à peu près comme l'auteur, le voile islamiste. L'actualité a remis le problème sous les feux des projecteurs, si j'ose dire, puisque Gabriel Attal, ministre de l'Éducation et de la Macronie, vient de décréter l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles. Relativement récemment également, le Danemark a interdit les autodafés de Coran. Vous savez que tant l'extrême droite hollandaise que l'extrême droite suédoise s'étaient livrées à des autodafés du Coran qui avaient déclenché des manifestations un peu partout dans le monde musulman. Et le livre, lui, eh bien, le titre est assez clair, je crois. Ce linceul du féminisme, c'est bien entendu le voile. Le livre est remarquablement bien écrit, plein de phrases tout à fait percutantes, et il est écrit dans l'optique d'un homme qui est né dans une famille musulmane, puis qui s'est petit à petit, même très tôt, on va le voir, s'est écarté de l'islam, est devenu athée. Alors après, c'est pas très clair, il parle d'un islam progressiste, est-ce qu'il est encore athée, ou est-ce que son islam progressiste est quelque chose, est une sorte de culture et non pas une sorte de religion, c'est pas très clair. Mais en revanche, ce qu'il nous dit sur le voile et sur la manière dont les islamistes se servent du voile pour imposer, un, leur vision du monde, et deux, en particulier, leur vision du monde aux femmes musulmanes, quand ils ne sont pas au pouvoir dans un pays, et à toutes les femmes quand ils sont au pouvoir dans un pays, eh bien, c'est de cela dont parle ce livre. Il en parle d'une manière, donc à nouveau, très lettrée, très amusante, et surtout, il en parle du point de vue de quelqu'un qui vit le problème. Alors, ok, ça n'est pas une femme, mais c'est quelqu'un qui vient de la culture musulmane, qui est né et qui a grandi à Grenoble, dans les quartiers populaires de Grenoble, et en particulier qui a été le fondateur de ce qui est à Grenoble, Ni pute, ni soumise. Les éditions Ceramis, d'ailleurs, dont il semble un peu difficile de savoir exactement la totalité des titres, il n'y a pas l'air d'y en avoir beaucoup, mais ce que j'ai pu voir, c'était à chaque fois des titres qui avaient un lien très direct avec le féminisme. Et cette perspective de l'auteur est une perspective, il le réaffirme absolument constamment dans son livre, c'est toujours et avant tout une perspective à la fois féministe et laïque. Et visiblement, il refuse absolument de privilégier un aspect sur l'autre. Et pour lui, les deux choses vont de pair. Et de ce point de vue-là, l'auteur commence par nous raconter sa vie. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a tout un tas de petits extraits absolument, je n'oserais pas dire savoureux, parce que ce n'est pas très joyeux nécessairement, mais en tout cas, c'est tout à fait intéressant. Prenons la page 7, qui commence par ceci. « Ma mère était une femme battue. Lorsque je me levais le matin et que je voyais des plaies sur ses lèvres, des bleus sur son visage et ses bras, je lui demandais ce qu'il s'était passé. Elle me répondait qu'elle était tombée ou qu'elle s'était cognée. Mais je n'étais pas dupe. Je me souviens de la première fois où je réalisais que mon père la battait. Je prenais mon petit déjeuner et je l'ai vu avec son œil au beurre noir, sa lèvre inférieure fendue et sa joue gonflée. J'avais 3 ans. Cela explique en partie ma fibre féministe. L'inégalité des sexes, l'autorité du mâle sur la femelle et la violence me révulsent depuis ma tendre enfance. » Naïm Bestanji continue ensuite pour parler de ce qu'il y avait comme religion dans ce foyer où la mère était battue par le père. Si la pratique religieuse était peu présente au quotidien, la religion était toujours là, comme une nappe latente. Nous devions prendre l'habitude d'invoquer ou de remercier Dieu à chaque acte de la journée, au début et à la fin d'un repas, avant un effort physique, avant de boire un verre d'eau, avant de s'endormir, etc. Tout était fait pour formater l'esprit, ne pas lui laisser d'autre choix que de croire à ses invocations et donc à l'existence de Dieu. Encore une fois, c'est un moyen de donner vie à une croyance. Ma sœur et mon frère s'habituèrent à ces dizaines de micro-rituels quotidiens communs à toute famille musulmane. Pas moi. Je trouvais cela barbant. De plus, je ne comprenais pas pourquoi notre Créateur voudrait que nous passions notre vie, dont il nous avait fait don, à le remercier longuement, par 5 prières par jour, et à l'invoquer toutes les 5 minutes dès que nous levions un cil. Je ne pouvais pas croire que Dieu soit aussi narcissique. Pour ma part, j'ai parlé avec beaucoup de personnes athées, originaires de familles musulmanes, et un certain nombre de ces personnes athées m'ont dit qu'à l'adolescence, quand ils allaient lire des choses dans le Coran, ce qui n'est pas si courant que ça dans les familles musulmanes, je rappelle que c'est un peu la même chose avec les familles catholiques qui sont souvent ignorantes de la Bible, il y avait des choses bizarres, des contradictions ou des omissions qui leur sautaient aux yeux et dont ils cherchaient des explications, et ces explications s'avéraient évidemment, en règle générale, pas du tout satisfaisantes. Donc reprenons le texte de Naïm Bestanji dans son livre « Le linceul du féminisme », et voici ce qu'il dit. « Du haut de mes 14 ans, loin de cette analyse, Cette confirmation de la polygamie dans le texte m'avait surpris. Je me mis alors à chercher un autre passage dont j'espérais l'existence, mais je ne le trouvais pas. Las, j'allais demander de l'aide à la référence théologique de mon enfance, ma mère. « Maman, on m'a dit qu'un musulman peut se marier avec 4 femmes. J'ai vu dans le Coran que c'est vrai, mais je n'ai pas trouvé le verset qui dit qu'une femme peut se marier avec 4 hommes. Il est où ?»« Pourquoi tu veux qu'une femme se marie avec 4 hommes ?»« Oh, je sais pas. Si c'est valable dans un sens, ça devrait l'être aussi dans l'autre. Sinon, c'est pas juste. » Ce fut, de mémoire, ma première prise de position féministe, même s'il ne m'était pas venu à l'esprit la question de l'identification de la paternité pour la polyandrie, l'une des justifications fondamentales du patriarcat. Elle eut un instant de réflexion et me dit d'un air amusé « Un homme avec 4 femmes, c'est déjà compliqué. Alors, si une femme peut aussi se marier avec 4 hommes, tu imagines le désordre. » On le voit, Naïm Bestanji a été très tôt rendu perplexe par les absurdités de la religion en général et de l'islam en particulier. Évidemment, sa famille va se rendre compte de ce refus, de cette incapacité à ingérer et accepter, et surtout à digérer les dogmes musulmans. Et voici ce que Naïm Bestanji en raconte. Pour ma part, ma mère était assez conciliante à ce sujet. Un compromis de bon sens s'était installé à la maison. Il m'arrivait cependant, comme à d'autres, de subir des remarques des musulmans de mon quartier, ou même de quelques membres de ma famille en Tunisie. Ce n'était jamais menaçant. La pression était diffuse. On me faisait comprendre que j'étais sur le mauvais chemin. On essayait de me convaincre de pratiquer ce pilier de l'islam. Ces personnes n'étaient pas méchantes. Elles ne pensaient pas à mal. Au contraire, elles étaient convaincues d'agir pour mon bien. La vie sur terre étant provisoire, l'important serait la vie éternelle après la mort physique. Elles n'avaient aucune envie que j'aille brûler en enfer pour l'éternité. Châtiment possible pour tout musulman qui ne pratique pas le ramadan. Je ne parle même pas de mon athéisme. Leurs bonnes intentions originelles rendaient leur comportement d'autant plus effrayant. Si ces remarques ne m'avaient été lancées qu'une fois par an, ça n'aurait pas été grave. Mais cela pouvait se produire assez souvent et par différents auteurs. Chacun ignorait les petits coups de pression que je subissais de la part des autres. Ce fut tout d'abord fatigant, puis cela finit par devenir humiliant et énervant. Si nous inversions les rôles et que je tentais de les convaincre de la futilité du ramadan, impossible. Cela aurait été reçu comme un manque de respect à leur égard et un blasphème de ma part. Toujours ce fameux respect à sens unique. À propos justement de respect, il importe de signaler que Naïm Bestanji, tout au long de son livre Le linceul du féminisme, rappelle que les islamistes réclament un respect qu'ils refusent absolument d'accorder aux autres. Ils demandent qu'on respecte leurs tabous, leurs interdits, leurs réclamations, et dès qu'ils ont du pouvoir, sur autrui ou sur tout un pays, eh bien, ce respect-là disparaît si l'autre personne n'est pas de leur avis ou de leur bord. Et de fait, après avoir expliqué un peu ce qui se passe et ce qui s'est passé dans sa propre vie, Naïm Bestanji donne ensuite un long, très détaillé portrait de l'islamisme, déjà de l'islamisme en général, avec en particulier, on verra, un portrait de plusieurs auteurs qui ne sont pas spécifiquement français, mais qui sont connus dans tout le monde musulman, et puis bien entendu de ce qu'est l'islamisme en France. Alors on va s'étendre un petit peu sur le sujet, sans trop quand même entrer dans les détails. Je recommande la lecture du livre à celles et ceux qui voudraient savoir un petit peu plus ce que c'est que l'islamistosphère en France, mais on va quand même regarder quelques petites choses. Alors tout d'abord, il commence, page 25, par simplement le récit d'une amitié pendant qu'il était gamin, quand il avait été animateur de karaté entre 1989 et 1990, il avait eu un petit élève qui avait 7 ans à l'époque, un petit gamin appelé Nabil, qui il décrit comme un garçon adorable et drôle. Et puis, il le revoit bien plus tard, en 2002. Et là, il le revoit dans une situation très désagréable, puisque Nabil est avec l'un de ses amis, ils sont dans un café pas loin de Grenoble, et le propriétaire, raciste, refuse de les servir. Et Nabil et son ami sont là, dépités et humiliés, selon les mots de Naïm Bestanji. Alors, Naïm Bestanji va chercher la police, ramène la police au bar, oblige le patron du bar à servir un coca aux deux garçons. Le patron, bien coincé, le fait, mais dit bien à voix haute, « Ok, ils boivent leur verre, et après, ils dégagent. » Et la fin de l'histoire entre Nabil et Naïm, c'est que relativement rapidement, quelques années plus tard, Naïm va revoir Nabil, mais là, en uniforme de salafiste, avec le camis blanc, donc les espèces de grandes... on va parler, nous, de djellaba, mais le mot exact, là, c'est dans ce cas, c'est camis. Et la description de Naïm, c'est « calotte sur la tête et longue barbe à la Zizi Top ». Si nous avions été le jour d'Halloween, j'aurais pensé qu'il s'était déguisé en Oussama Ben Laden. Et puis, un peu plus loin dans le livre, on verra quelque chose de nettement plus triste. Le Nabil en question, eh bien, aurait été tué en Syrie. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et vous écoutez plus précisément Le Proton se rebiffe. Nous parlons du livre de Naïm Bestanji, Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile. Alors, nous venons à la fois de parler de la vie de l'auteur, Naïm Bestanji, puis très rapidement de la vie d'une de ses connaissances, un petit gamin vif et drôle, qui devient ensuite un salafiste et qui va mourir en Syrie. Et donc maintenant, le livre essaie de donner une analyse de ce qu'est l'islamisme que Naïm Bestanji divise en gros en trois tendances principales. La première, il l'appelle le quiétisme. Peut-être un choix un petit peu bizarre quand on pense à ce que c'est que le quiétisme dans le catholicisme. Enfin, toujours est-il que c'est le mot qu'il utilise. Et pour lui, cela recouvre eh bien, les salafistes, ces gens qui prétendent vivre comme les premiers musulmans, les salafs, un peu comme dans le christianisme, on a tous ces mythes sur les premiers chrétiens. Et les salafistes sont particulièrement remarqués par leurs vêtements. Où quel que soit le pays qu'ils habitent, eh bien, ils veulent s'habiller de la façon qu'ils pensent qu'étaient habillés les premiers disciples de Mahomet. Bien entendu, on sait que l'Arabie Saoudite en particulier finance considérablement tout l'univers salafiste, dont Naïm Bestanji donne une description relativement complexe dans son livre. Puis, pour lui, la deuxième tendance dans le monde des islamistes, c'est le djihadisme. Alors évidemment, le djihadisme, c'est le monde de la violence. C'est celui où ces fameux salafistes, pas satisfaits des simples vertus de l'exemple, veulent aller plus loin et veulent imposer eh bien, le règne de l'islam par la force. Et leur justification, c'est un mot qui est devenu tout à fait célèbre, puisque c'est le djihad. Alors là-dessus, j'ai été ravi d'apprendre, grâce à Naïm Bestanji, que la signification du mot djihad n'est pas originellement celle que les salafistes lui donnent. Parce que quand on pense à djihad, bien entendu, on pense immédiatement à guerre sainte. Eh bien non. En arabe, djihad veut donc dire plutôt effort. Alors qu'est-ce que c'est que cet effort ? Eh bien, c'est l'effort que le musulman doit accomplir sur lui-même pour repousser loin de lui les vices, pour épouser les vertus et marcher dans le chemin de l'islam. Et évidemment, ça, on conçoit que ce soit un très gros effort. Seulement voilà. Après la mort de Mahomet, longtemps après, eh bien, il y a eu une deuxième signification qui s'est attachée au mot djihad et qui va correspondre effectivement à la traduction française guerre sainte. Seulement voilà, dans l'islam malgré tout, il y a un djihad majeur et un djihad mineur. Le djihad majeur, c'est celui de l'effort personnel, individuel, de l'individu sur lui-même. Et puis, comme Naïm Bestanji vit en France, il se penche plus particulièrement sur une organisation absolument fondamentale dans le monde de l'islamisme, une organisation internationale dont on entend relativement peu parler en France si on n'est pas musulman, mais qui en réalité est extrêmement présente sur le territoire français et bien entendu dans tout un tas d'autres pays. Et il s'agit de l'organisation des Frères musulmans. Alors que sont les Frères musulmans ? Naïm Bestanji utilise plusieurs fois le terme totalitarisme, il ne l'utilise pas très fréquemment. Personnellement, je pense que ça mériterait qu'il l'utilise beaucoup plus fréquemment, car très clairement, les frères musulmans, l'idéologie des frères musulmans est une idéologie totalitaire. Totalitaire en ce sens qu'elle veut couvrir absolument tous les aspects de la vie des êtres humains. Alors, les frères musulmans sont nés en 1928 en Égypte par l'action d'un gars appelé Hassan al-Benna. Et voici quelques phrases de ce bonhomme ou de ses amis. La bannière de l'islam doit couvrir le genre humain, et chaque musulman a pour mission d'éduquer le monde selon les principes de l'islam. Donc voilà évidemment une belle définition de prosélytisme. Bien entendu, on sait que pour le christianisme, c'est exactement la même chose. Autre phrase des frères musulmans, le Coran est notre constitution, le djihad est notre chemin. Évidemment, là, bien entendu, le djihad, il est entendu à la fois dans le sens djihad majeur et djihad mineur, mais bien entendu, plus particulièrement, dans le sens de la guerre sainte. Le texte le plus connu des frères musulmans, eh bien, c'est un texte originel qui s'appelle 50 demandes du programme des frères musulmans. Et eh bien, ces demandes sont évidemment à la base de cette structure totalitaire que les frères musulmans veulent imposer au monde. On va en lire quelques-unes dans quelques instants. Les frères musulmans ont tout un tas de courroies de transmission, pour utiliser le mot dont on se servait pour indiquer les relations entre, par exemple en France, le Parti communiste français et la CGT, ou bien tout un tas d'organismes qui étaient créés par des militants du Parti communiste, qui officiellement étaient plus ou moins indépendants du Parti communiste, mais qui en réalité servaient exactement les mêmes buts et la même idéologie. Et les frères musulmans font exactement la même chose. Alors, comme Naïm Bestanji vient d'une famille d'origine tunisienne, il parle par exemple du parti Ennahda, qui est le parti islamiste en Tunisie. On peut également, par exemple, identifier en Palestine le Hamas. Et en France, il y a toute une galaxie des frères musulmans, mais sans doute l'individu le plus connu de cette galaxie, c'est Tariq Ramadan. Alors, Tariq Ramadan, Naïm Bestanji en parle beaucoup dans son livre, parce que Tariq Ramadan, lui, pas fou, ne s'habille pas en salafiste. On ne le voit pas avec la petite calotte, la barbe à la Zizi Top et le grand camis blanc. Non, non, il est là en bonne habillé à l'occidental, avec en général une petite veste et une petite chemise au col ouvert à la Bernard-Henri Lévy. Je ne suis pas très sûr que Tariq Ramadan et Bernard-Henri Lévy soient heureux d'être comparés l'un à l'autre. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que Tariq Ramadan joue constamment un double jeu. Alors, on va y revenir, mais ce que fait Tariq Ramadan principalement, c'est que ce double jeu est d'abord un jeu dans le langage. Tariq Ramadan a deux langages au strict minimum. Le langage qu'il utilise quand il parle à des non-islamistes, donc soit à des musulmans pas encore contaminés par l'islamisme, soit aux gens qui sont directement non-musulmans, les athées, les chrétiens, etc. Et bien entendu, les mots ne sont pas les mêmes, ou quand ils sont les mêmes, ils n'ont pas du tout la même signification. Mais il faut se souvenir que Tariq Ramadan, c'est quelqu'un qui est dans le giron, qui est une courroie de transmission des frères musulmans. Alors, Naïm Bestanji raconte qu'une fois, à moitié par hasard et à moitié pas par hasard, il s'est trouvé dans la même voiture que Tariq Ramadan, qui avait offert de le ramener d'un point A à un point B, et pendant 2h30 dans la voiture, eh bien, Naïm Bestanji, fort jeune alors, un peu moins équipé intellectuellement qu'il ne l'est à présent, je mentionne simplement que, par exemple, il a une maîtrise d'histoire et qu'il est l'auteur d'un très grand nombre d'articles. Et pendant cette conversation avec Tariq Ramadan, L'une des choses qui avait frappé Naïm Bestandi, c'est que Ramadan lui a déclaré « Le voile est une obligation en islam, mais il n'y a nulle contrainte en religion. » Alors cette phrase « Il n'y a nulle contrainte en religion », elle est très célèbre, puisqu'elle est tirée de la sourate numéro 2 du Coran, c'est le verset 256, et bien entendu, c'est quelque chose que les musulmans, alors on va dire progressistes, mais aussi les musulmans modérés, gentils, pas brutaux, qui ne considèrent pas nécessairement que le prosélytisme, en particulier le prosélytisme à coup de violence, est un devoir religieux, eh bien, c'est quelque chose, c'est un verset qu'ils citent très souvent. Et les islamistes qui, eux, ne rêvent que contrainte, autorité et ordre, au pire sens du terme, eux, en revanche, évidemment, sont capables de sortir cette phrase aberrante, directement contradictoire, de Tariq Ramadan à nouveau, le voile est une obligation en islam, mais il n'y a nulle contrainte en religion. Et apparemment, pendant ces 2h30 en voiture avec Naïm Bestandi, Tariq Ramadan s'est livré aux habituelles contorsions auxquels se livrent les religieux quand ils veulent prétendre à la fois que l'être humain est libre, qu'il a tout le libre arbitre que Dieu lui a donné, et qu'en même temps, il y a 10 milliards de règles qu'il faut absolument respecter sous peine d'aller rôtir en enfer. Alors je rappelle que le christianisme en France, en plus exactement le catholicisme en France, a plus ou moins renoncé à faire peur aux petits-enfants en parlant de l'enfer, alors que les islamistes tous, et bon nombre de musulmans non islamistes aussi, en France, parlent constamment de l'enfer, et en parlent de la manière la plus concrète qui soit. C'est-à-dire qu'on explique aux jeunes filles ou aux femmes qui hésitent à se voiler que si elles ne le font pas, elles iront littéralement rôtir en enfer. Il ne s'agit pas là d'une métaphore. Les islamistes sont des gens persuadés qu'il existe quelque part un endroit immense où les flammes sont permanentes et où ils disent même elles sont 70 fois plus chaudes que les flammes que nous pouvons connaître sur Terre et que cet endroit sera la résidence permanente et éternelle des femmes qui ne se voilent pas. Sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître, sans publicité, sans islam, sans voile. Et nous sommes toujours sur Le Proton se rebiffe, où nous parlons ce soir de l'ouvrage de Naïm Bestandi, le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile, et c'est paru aux éditions Céramis. Alors, nous étions en train de parler des différentes variantes de l'islamisme, et en particulier en France, des procédés discutables de Tariq Ramadan. Naïm Belsandji rappelle aussi que l'une des raisons du renouveau de l'islamisme dans le monde, eh bien, c'est la révolution iranienne de 1979, quand le régime pro-américain et pro-modernité, plutôt dans ce qu'elle a de pire, du Shah d'Iran, a été renversé par une révolution qui, malheureusement, a mis au pouvoir les mollahs, donc le clergé chiite iranien. Et cette révolution, on peut malheureusement la comparer à la révolution française. La révolution française de 1789, qui a montré l'exemple à tout un tas de pays, où dans tout un tas de pays, on s'est dit, mais finalement, on pourrait nous aussi avoir une démocratie, et malheureusement, la révolution iranienne a donné l'idée à plein de gens qu'après tout, un régime théocratique, un régime islamiste, pourrait s'installer dans leur pays aussi. En ce qui concerne la France en particulier, il faut également souligner l'importance de l'horrible guerre civile dont on se souvient en Algérie, quand les militaires au pouvoir, passablement effrayés par la colère et l'insatisfaction du peuple algérien à leur égard, eh bien, a carrément provoqué l'insurrection islamiste de façon à avoir un bouc émissaire et d'avoir une excuse pour décupler la violence de la répression qu'ils exercent contre le peuple algérien. Et ils les ont, comme on le sait, finalement battu, les islamistes, dont un grand nombre se sont ensuite réfugiés, hélas, en France. Et ça a évidemment donné un coup de fouet à l'islamisme en France. Et Naïm Belsandji, à ce moment-là, nous raconte ce qui se passe. Dans la première moitié des années 1990, j'étais loin de tout cela. La guerre civile algérienne ne me concernait pas. J'ignorais tout, de la montée de l'islamisme sur l'agglomération grenobloise. Jusqu'au début des années 90, nous n'avions jamais vu d'islamistes dans mon quartier. Un salafiste emménagea à cette époque dans une des trois tours en face de chez moi. Nous voyions parfois ces deux femmes sortir, voilées de la tête aux pieds, en noir ou bleu foncé. Elles étaient gantées, leurs yeux dissimulés derrière un voile. Leur mari affichait toute la panoplie vestimentaire et pileuse du salafiste. Si ces deux femmes faisaient peur, surtout aux enfants, lui nous faisait rire. Il jouait au parfait et pieux musulman, mais il cachait toujours un pack de bière dans sa boîte aux lettres. Ce fut mon premier contact avec un islamiste. À l'époque, aucune femme n'était voilée. Un hijab aurait choqué tout le monde, y compris les musulmans. Alors, voir un salafiste polygame et ses deux femmes bâchées, c'était rencontre du troisième type. La religion n'avait jamais été un marqueur identitaire. Personne ne l'affichait. Nous vivions dans un quartier aux côtés d'habitants de toutes origines, et confession ou non confession, Noël était fêté par tous, l'Aïd était l'occasion d'un moment de partage à travers les pâtisseries orientales. Mes amis s'appelaient Frédéric, Mourad, Carlos, Hassan, Stéphane, Eric, Christophe, Souad, Sandrine, Rachid, Alfred, etc. Il n'était jamais venu à l'idée de personne de mettre sa religion en avant. Si certains avaient une démarche d'affirmation identitaire, cela concernait leur origine ethnique, un réflexe d'abord dû à leur éducation. Les parents, primo-arrivants, craignaient que leurs enfants n'oublient leurs racines familiales. Ce réflexe était aussi une réaction aux discriminations et au racisme vécu. Il était plus simple d'intégrer le discours de « tu n'es pas vraiment français » plutôt que de se battre pour s'affirmer pleinement comme citoyen. Ainsi, beaucoup se définissaient comme Algériens, Tunisiens ou Marocains, alors qu'ils étaient tous Français. Le glissement vers l'identité religieuse ne viendra que plus tard, grâce au travail de fond mené par les islamistes. Il y avait une vraie mixité ethnique, mais aussi sexuelle. Filles et garçons ne cessaient pas de se fréquenter une fois l'adolescence, puis l'âge adulte venu. Il n'y avait pas les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Nous tissions des amitiés, parfois nous flirtions. Nous apprenions la vie, bien sûr, à l'insu de nos parents maghrébins remplis de conservatisme. Ah, ils n'étaient pas des héritiers de mai 68, comme pouvaient l'être les parents de certains de mes amis. Mais nous commettions déjà une erreur. Notre slogan principal était « le droit à la différence ». Cette notion fut le premier pas vers le repli communautaire qui se développera plus tard. Nous aurions dû militer pour le droit à l'indifférence. Cet angle aurait affirmé que nos différences étaient une richesse, mais qu'elles ne devaient pas être cultivées comme identité première, ce qui mène à diviser et classer les citoyens selon leurs origines et leur religion. Le droit à la différence est le lit du racialisme et du communautarisme, favorable à l'intégrisme musulman. Le droit à l'indifférence, bien plus respectueux de chaque être humain, est un des ferments de l'universalisme, la kryptonite des islamistes. Dans le chapitre intitulé « Le voile, virgule, une prescription coranique », point d'interrogation, Nahem Bestanji, dans son livre « Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile », pose une question fondamentale. Est-ce que vraiment le voile est exigé par le Coran ? Et comme Nahem Bestanji a un joli talent de plume et qu'il sait mener un argument, eh bien, il commence son chapitre par une citation d'un poète persan, Nizami Janchevi, des années 1140-1209, et qui nous montre que la controverse à propos du voile, elle ne date pas d'aujourd'hui. Voici le vers de ce poète. « S'il est péché de regarder la femme. Alors, cache tes yeux, pas la femme. Merveilleux. Et c'est là, évidemment, le cœur de la critique envers cet absurde objet, cet objet néfaste, nocif, toxique, qu'est le voile. Pourquoi faudrait-il, si tels ou tels hommes ont honte de leur désir sexuel, d'une part, d'autre part, s'ils craignent de ne pas savoir les maîtriser, s'ils craignent d'y céder brutalement et de se jeter sur toutes les femmes qu'ils voient pour les violer, si, de manière un peu plus réaliste, ils projettent ce désir en disant que dès qu'une femme sort non voilée, elle déclenche des torrents de désir sexuel chez tous les hommes et qu'elle risque de se faire violer toutes les 3 minutes. Eh bien, désolé, c'est leur problème. C'est à eux de réfléchir à leur attitude envers leur propre désir sexuel. Ça n'est pas aux femmes de s'en transformer en sac poubelle à deux jambes. Et ce chapitre est tout à fait remarquable, j'en recommande vivement la lecture, même si bien entendu il est obligé d'aller dans des détails, d'aller couper des cheveux en quatre, mais c'est malheureusement indispensable pour répondre à l'argumentaire des islamistes. Bien entendu, le livre rappelle, et je lis ici ce qu'il dit, page 79, il rappelle que le voile est aussi ancien que le patriarcat qu'il a engendré. Sa première trace remonte à la haute antiquité, 1300 environ avant notre ère. Une loi assyrienne l'imposait aux femmes mariées, leur conférant une honorabilité visible pour les distinguer des prostituées et des esclaves, d'où la distinction aujourd'hui encore chez les partisans du voile entre les femmes vertueuses et pudiques et les autres. Le voile n'est donc pas une création islamique. Là, je reprends la parole. C'est tout à fait clair. On s'aperçoit très bien que tout un tas de civilisations méditerranéennes, pas du tout islamiques pour dessous, ont été extrêmement patriarcales et ont exigé des femmes, soit qu'elles portent un voile, soit qu'elles s'enferment, soit les deux. Le gynécée, c'est-à-dire l'endroit où pour les Grecs les femmes doivent vivre, c'est une invention grecque, c'est pas une invention musulmane. Le voile catholique, la mantille, c'est également quelque chose qui n'était pas islamique, qui était chrétien, mais qui en revanche s'est beaucoup vu en Espagne et en Italie, et c'est assez curieux, mais le port de la mantille au Danemark ou en Écosse est un petit peu rare. Nahem Bestanji se lance par ailleurs dans une analyse grammaticale et lexicale sur les occurrences du mot « voile » dans le Coran. Alors c'est un petit peu compliqué, j'imagine que c'est plus simple pour les arabophones, dont je ne suis pas, et dont il est à présumer qu'un grand nombre des auditrices et des auditeurs de Radio Libertaire ne le sont pas non plus. Toujours est-il qu'il affirme que les mots employés dans le Coran et que les fondamentalistes, les islamistes reprennent pour justifier l'obligation de porter le voile, selon Naïm Bestanji et selon beaucoup d'autres personnes, ces mots ne décrivent pas l'objet qui sont les différentes versions des voiles islamistes actuellement imposés aux femmes par les féministes. Il ajoute même, page 99, je cite, « De plus, c'était bel et bien une recommandation, non une obligation. Sur ce sujet au moins, le Coran est clair. Dans les deux versets qui concernent le « entre guillemets voile » où Dieu s'adresse à Mohammed pour transmettre son message aux croyants, il est écrit « dit ». cool, et non pas Allah ordonne, inna Allaha yamuru, comme c'est le cas dans d'autres versets. Mais il ne s'agit pas là de la seule falsification opérée par les islamistes. Il y a bien un mot en particulier, une occurrence dans le Coran du mot précis hijab, enfin hijab plus exactement, et le verset est le suivant. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez, entre parenthèses, à ces femmes, quelque objet, demandez-leur derrière un rideau, entre parenthèses, hijabine. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait, auprès d'Allah, un énorme péché. Sourate 33, verset 53. Et Naïm Bestandi nous fait ce commentaire savoureux de ce verset coranique. Ainsi, se mettre entre deux choses, traduit par rideau, hijab, dans la maison d'une prophète, se téléporte sur la tête de toutes les musulmanes à l'extérieur de leur maison et pour l'éternité. En effet, pour rendre cette séparation mobile, il serait compliqué de marcher dans la rue avec un paravent, un rideau ou une porte, les islamistes ont décrété que le rideau qui pendait au mur de la demeure de Mohammed doit être décroché pour être posé sur le crâne de toutes les musulmanes de la planète. Enfin, le hijab est censé offrir l'illusion à leur porteuse qu'elle serait aussi vertueuse que les femmes du prophète. Au cours des siècles qui suivirent la révélation, poursuit Naïm Bestandi, cette recommandation de mieux ajuster ses vêtements d'extérieur pour ne pas être confondu avec des prostituées et se protéger de l'attitude de certains médinois, se transforma en obligation du voilement en tout lieu et en tout temps. Les femmes sont passées du statut d'être humain à celui d'objet sexuel convoité qu'il faudrait bâcher et séparer des hommes autant que faire se peut. Voilà ce qui est aujourd'hui défendu par le féminisme intersectionnel, écrit donc Naïm Bestandi. Afin d'enfoncer le clou quant au caractère purement sexiste et sexuel de l'obsession islamiste pour le voile sur les femmes, eh bien, Naïm Bestandi cite le verset suivant, dans la sourate 24, le verset 60. Et quant aux femmes atteintes par la ménopause, qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements, sans cependant exhiber leurs atours, et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Comme d'habitude, le Coran manque de clarté. Néanmoins, une chose est évidente à l'audition de ce verset, c'est que, bien entendu, le voile n'a qu'un seul but, c'est de créer ce que Naïm Bestandi appelle un apartheid sexuel. Évidemment, dans ce verset, les femmes atteintes par la ménopause, tout d'un coup, sont vues comme n'ayant plus de sexualité. Alors, glissons sur cette énormité qui est là la faute non seulement des islamistes, mais également du Coran originel. Dans l'un des chapitres les plus amusants et les plus tragiques à la fois de son livre, intitulé « L'instrumentalisation patriarcale de l'islam par des obsédés sexuels », Naïm Bestandi cite un certain nombre de gens. En particulier, il revient sur les fameuses 50 demandes du programme des frères musulmans, rédigé en 1936, et qui, rappelons-le, sont encore aujourd'hui, en 2023, l'une des sources principales de l'action et des choix des islamistes un peu partout dans le monde. Alors, voilà quelques citations. Hassan al-Banna, donc le fondateur des frères musulmans, demande de, j'ouvre les guillemets, revoir les méthodes d'enseignement des filles, faire obligatoirement la différence entre ces méthodes et celles appliquées aux garçons au cours de tous les cycles d'enseignement. Les frères musulmans proposent également d'interdire la mixité entre les étudiants et étudiantes, considérer tout contact mixte en tête-à-tête comme un crime susceptible d'être sanctionné. Les frères musulmans continuent avec allégresse, puisqu'ils veulent aussi fermer les dancing, les lieux libertins, et interdire la danse et tout contact gestuel entre hommes et femmes. Tout contact gestuel entre hommes et femmes. L'énormité de la chose est absolument stupéfiante. Continuons avec les énormités islamistes. Youssef al-Qaradawi a écrit en 1961 un livre dont le titre français est « Le licite et l'illicite en islam ». C'est un best-seller dans tout le monde musulman et dans toute la diaspora musulmane. C'est un livre qui, en 2023, continue à se vendre comme des petits pains. Et, bien entendu, c'est un livre qui respecte tout à fait les idées des frères musulmans. Naïm Bestanji en donne une série de citations absolument stupéfiantes. Je vais maintenant lire donc ce que Naïm Bestanji écrit, page 131, et il va citer Youssef al-Qaradawi. D'après l'auteur, les parties intimes de l'homme et de la femme doivent être cachées. Soit. Pour l'homme, les parties intimes vont du nombril aux cuisses. Cette zone, cite-t-il, ne doit être vue ni d'un homme ni d'une femme. Et pour la femme, là, Youssef al-Qaradawi ne fait pas dans le détail. Les parties intimes sont la totalité de son corps, à part le visage. Al-Qaradawi détaille la chose en écrivant « Cet ordre interdit aux femmes croyantes de découvrir leur beauté cachée, telle que l'oreille, les cheveux, le cou, la poitrine, les jambes, devant des hommes qui pourraient les épouser et devant lesquels Dieu n'a permis que de laisser voir leur visage et leurs mains. » Notons la remarquable tolérance de Youssef al-Qaradawi, qui accepte que le visage et les mains soient montrés, puisque, comme vous le savez, par exemple en Afghanistan, le visage et les mains doivent également être masqués. Naïm Bestanji continue à citer les horreurs écrites par Youssef al-Qaradawi, et je cite donc ce que je vois, page 133. Youssef al-Qaradawi est si sympathique et compréhensif. On peut être islamiste sans pour autant manquer d'humanité. Notons également que la femme peut sortir uniquement si c'est légal. Autrement dit, elle n'a pas le droit de sortir sans l'autorisation de son tuteur, toujours masculin, quel que soit son âge, et même si elle est cachée au fond d'un carton, pour être sûr que ses parties intimes sont bien dissimulées. Chez les intégristes, la femme est une éternelle mineure et son corps ne lui appartiendra jamais. Le voile en est le sceau. Pour nous rassurer, Youssef al-Qaradawi précise toutefois que l'islam n'astreint pas la femme, comme on veut le dire, à rester prisonnière à la maison dont elle ne sort que pour la tombe. Il lui est au contraire permis de sortir pour faire ses prières, pour rechercher le savoir, pour répondre à ses nécessités, et pour toute raison légale, habituelle ou religieuse. Continuons à citer Youssef al-Qaradawi, le licite et l'illicite en islam. Cependant, il est plus parfait pour la femme musulmane de s'efforcer de voiler sa parure jusqu'à son visage, dans la mesure du possible. Cela devient d'autant plus nécessaire si elle est belle et que l'on craint qu'elle ne tente les hommes. Magnifique. Là, c'est à nouveau moi qui reprends la parole. On voit là que les islamistes ne craignent pas, non seulement de limiter les femmes uniquement à leur sexualité, à leur utilité sexuelle dans le regard des hommes, mais les voilà qui décident que Dieu lui-même préférerait que les plus belles mettent le voile plus souvent que les plus laides. Mamma mia, mamma mia. Voilà une religion fort féministe. Et d'ailleurs, en parlant de féminisme, continuons à voir ce que Naïm Bestanji cite de Youssef al-Qaradawi dans le licite et l'illicite dans l'islam. Le mariage aurait ainsi été créé pour sauvegarder la famille et le genre humain en interdisant la fornication et obliger la femme à être la propriété d'un seul homme à la fois. On a bien entendu la propriété. Mais au-delà de la simple et brutale réduction des femmes au statut d'objet du désir sexuel des hommes, Naïm Bestanji, bien entendu, nous rappelle que le voile est, dans ses termes, le voile est un outil exhibitionniste identitaire. Il cite donc à nouveau Youssef al-Qaradawi, qui écrit avec allégresse « Ce vêtement ne doit pas ressembler à ce que portent spécialement les mécréantes, les juives, les chrétiennes et les idolâtres. L'intention d'imiter ces femmes est interdite en islam, qui tient à ce que les musulmans se distinguent et soient indépendants dans le fond et dans la forme. C'est pourquoi il a ordonné de faire le contraire de ce que font les mécréantes dans plusieurs domaines. » On ne saurait être plus clair, et c'est bien entendu là le cœur du problème en ce moment avec cette interdiction de l'abaya dans les écoles. Si la mesure doit choquer de plein de points de vue, eh bien, il faut quand même comprendre d'où vient ce vêtement et d'où vient surtout l'obligation de le porter. Car, rappelons-nous, si d'un côté le port de ce vêtement est présenté comme un libre choix des femmes qui le portent, la réalité sociale est que dans un nombre extrêmement élevé de cas, il s'agit bien plutôt d'une contrainte exercée par la famille, par le milieu et par l'idéologie. Vous écoutez toujours Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans publicité, c'est toujours le proton se rebiffe. Et nous parlons ce soir du livre de Naïm Bestanji, Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile, paru aux éditions Céramis. Et je voudrais donc maintenant terminer cette trop courte présentation de ce livre plein d'enseignements passablement déprimants, il faut le dire, par une lecture de la page 139 qui nous rappelle ce que dit Youssef al-Qaradawi, peut-être à l'heure actuelle l'auteur du livre le plus lu par les islamistes, à part le Coran, un livre qui s'appelle « Le licite et l'illicite en islam ». Et donc je rappelle que Youssef al-Qaradawi est complètement dans la ligne des frères musulmans. Et donc, Naïm Bestanji nous présente, page 139, un paragraphe appelé « Comment battre sa femme désobéissante de façon islamique ?» Si malgré la patience de son mari, l'épouse continue à lui désobéir, que doit-on faire quand la femme se montre fière ou rebelle ? Voici l'introduction de Youssef al-Qaradawi pour justifier sa réponse. L'homme est le seigneur de la maison et le maître de la famille. Pour toutes ces raisons, la femme ne doit pas désobéir à son mari, ni se rebeller contre son autorité. Youssef al-Qaradawi s'appuie encore sur le Coran en le citant. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Les femmes vertueuses sont obéissantes. Sourate 4, verset 34. D'accord, dit Naïm Bestanji, mais si elle insiste. Dans ce cas, Youssef al-Qaradawi se réfugie de nouveau derrière la révélation coranique pour justifier son autorité masculine. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. Youssef al-Qaradawi se régale à expliquer ce verset à sa façon. Quand le mari voit chez sa femme des signes de fierté ou d'insubordination, il lui appartient d'essayer d'arranger la situation avec tous les moyens possibles, en commençant par la bonne parole. Si cette méthode ne donne aucun résultat, il doit la bouder au lit, dans le but de réveiller en elle l'instinct féminin et l'amener ainsi à lui obéir pour que leur relation redevienne sereine. Mais, objecte Naïm Bestanji, si elle persiste dans son entêtement, Youssef al-Qaradawi, à ce moment-là, dit « Si cela s'avère inutile, le mari essaie de la corriger avec la main, tout en évitant de la frapper durement et en épargnant son visage. » Cela ne veut pas dire qu'on la frappe avec un fouet ou un morceau de bois. Il n'est pas permis au mari musulman de frapper son épouse au visage, car cela est une humiliation à la dignité humaine. S'il est permis aux musulmans, en cas de nécessité, de corriger sa femme lorsqu'elle se montre fière et rebelle, il ne lui est pas permis de la frapper durement. Faut-il commenter des textes aussi ahurissants ? Je pense que c'est parfaitement inutile, et je pense que le titre de l'ouvrage de Naïm Bestanji, « Le linceul du féminisme », est un résumé absolument parfait de ce que signifie le voile islamiste et ses différentes conjugaisons. C'était le proton se rebiff, c'était une discussion du livre de Naïm Bestanji, le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile. Bonne soirée à tout le monde.
Adieu marquise à Ruban,
et vive dans la canaille, et vive dans le corbeau. Caro noce scélérate, je sors toi, caro fou,
c'est la vie.
Ha!
marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant.
So no one near can hear me. Each little whisper seems to cheer me. I know it's true, there is no one but you. You whispering just why you'll never leave me. Whispering just why you'll never grieve me. Whisper and say that you believe me. Whisper that I love but you.
J'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers. J'ai navigué sur 100 mers et abordé 100 rivages. j'ai vu des caravanes de tristesse, de superbes et mélancoliques ivrognes à l'ombre noire, et de grands pédants de la cantonade qui regardent, se taisent et pensent qu'ils savent, parce qu'ils ne boivent pas le vin des tavernes. Méchantes gens qui cheminent en empestant la terre. Partout j'ai vu aussi des gens qui dansent ou qui jouent quand ils peuvent et cultivent leurs petits lopins de terre. Jamais s'ils arrivent quelque part, ils ne demandent où ils arrivent. Là où il y a du vin, ils boivent du vin. Où il n'y a pas de vin, ils boivent de l'eau fraîche. Ce sont de bonnes gens qui vivent, travaillent, passent et rêvent, et qui, un jour, comme les autres, reposent sous la terre, reposent sous la terre. Elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, qu'elle ne sait lequel prendre, qu'elle ne sait lequel prendre. La belle, si tu voulais, la belle, si tu voulais, nous dormirions ensemble, nous dormirions ensemble.
Soyons heureux, quel bonheur! La culture nous appartient, les produits culturels, les loisirs culturels. Ah, soyons heureux, quel bonheur!
Soyons heureux, quel bonheur!
La culture nous appartient,
soyons heureux,
les produits culturels, les loisirs culturels.
La culture nous appartient,
soyons heureux,
la culture nous appartient,
soyons heureux.
Radio Libertaire 89 ou 89.4, comment dire en Suisse?
Radio Libertaria 89.4 FM, Radio de la Fédération Anarchiste.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4, radio bez Boga i gospodara.
Radio Libertaria 89,4 FM.
Radio Libertaire 89.4, the radio without God or master.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4, radio bez Boga i gospodara.
Radio Libertaria, o Radio Libertaire 89.4 FM.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 FM, radio bez Boga i bez gospodara.
Radio Libertaria 89,4 FM.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio Libertaria 89.4.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio
Libertaria 89.4.
Radio Tahrori 89.4.
Luchemos por ella con fe.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
L'enterrement de Verlaine, le revois-tu, mon âme, ce boule miche d'autrefois, et dont le plus beau jour fut un jour de beau froid. Dieu s'ouvrit-il jamais une voie aussi pure au convoi d'un grand mort, suivi de miniatures? Tous les grognards petits de Verlaine étaient là, tout sautant, frissonnant, glissant sur le verglas, mais qui suivait ce mort, et la désespérance, morte enfin, du premier rossignol de la France, ou plutôt du second. François de Montcorbier, voici belle lurette, en fut le vrai premier. N'importe, Lilian, je vous suivrai toujours, premier, second, vous seul, en ce plus froid des jours. N'importe, je suivrai toujours l'âme enivrée, ah, folle, d'une espérance désespérée, Montesquieu faisant sac, et Bibi la purée, vos deux gardes du corps, entre tous, moi, dernier.
Veste à carreaux, bien se feuille dans la tête, en soie poli, déjà voûté par les courbettes. La page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour les mots sûrs, le jeu de dames avec la bonne, c'est l'homme. Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, l'œil agrippé sur les pucelles. La chasse à cour chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne sous trois coups pesants, et le reste, mon Dieu, pour l'Amazone, c'est l'homme. Les 5 à 7, pas vu, pas pris, la Rome du devoir raconte. Les alcôves de chez Barbès, secret de police, l'amour express, alors qu'elle veut faire la vaisselle, c'est l'homme. Le héros qui part le matin, l'autobus de l'aventure, et qui revient après le turbin avec de vagues courbatures. La triste cloche de l'ennui qui sonne le téléphone. Le chien comprend que il ne reste plus personne. C'est l'homme. Les temps disent vers la fin, les souvenirs qu'on raconte avec de et des photos sur la com. Les mots d'amour à fistoler, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt, le jardinier de la fleur de l'âge, c'est l'homme. Le va-t-en-guerre, il faut y aller, qui bouffe de la géographie avec des cocardes en papier et des tonnes de mélancolie. Du goût pour la démocratie, du sentiment à la poche, le complexe de panoplie que l'on guérit à la buvette. L'inconnu qui salue bien bas les lents et douloureux cortèges et qui ne se rappelle pas qu'il a 75 berges. L'individu morne et glacé, bien loin des mandolines, qui se dépêche à bouffer les pissenlits par la racine. C'est l'homme!
Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des peines et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps, et puis l'âme toute rongée par de foutues idées. Y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il n'y en a pas un sur 100 et que pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Qui a tué Evimon?
Je suis l'arbitre, pas moi. Ne me montrez pas du doigt. Bien sûr, j'aurais peut-être pu le sauver si au 8e j'avais dit assez. Mais la foule aurait sifflé. Ils en voulaient pour leur argent, tu sais. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il y en a d'autres au-dessus de moi. C'est pas moi qui les fait tomber. Vous ne pouvez pas m'accuser.
Qui a tué des morts? Qui est responsable et pourquoi est-ce qu'il ment?
C'est pas moi, je suis son manager. Je finis mon cigare, j'ai pas peur. C'est difficile à dire, à expliquer. J'ai cru qu'il était en bonne santé. Pour sa femme, ses enfants, c'est bien pire. Mais s'il était malade, il aurait pu le dire. C'est pas moi qui l'ai fait tomber. Vous ne pouvez pas m'accuser.
Qui a tué des démons? Qui est responsable et pourquoi est-il mort?
Qui a tué des démons?
C'est pas nous la foule, on est en colère. Nous avons payé assez cher. C'est bien dommage, mais entre nous, nous aimons un bon match et puis c'est tout. Et quand ça blâme, on trouve ça bien. Mais vous savez, on y est pour rien. C'est pas nous qui l'avons fait tomber. Vous ne pouvez pas nous accuser, non.
Qui a tué des démons? Qui est responsable et pourquoi es-tu mort?
Qui a tué des démons?
Ce n'est pas moi, je suis journaliste à la tribune. Je tape mon papier pour la une. La boxe n'est pas en cause, tu sais. Dans un match de foot, il y a autant de dangers. La boxe, c'est une chose saine. Ça fait partie de la vie américaine. C'est pas moi qui l'ai fait tomber. Vous pouvez pas m'accuser.
Qui a tué des démons? Qui est responsable et pourquoi est-il mort?
Qui a tué des démons?
C'est pas moi, j'étais son adversaire. Ok, je lui ai donné le coup mortel. Bah, j'ai pris la fuite, où la boxe est maintenant interdite. Je l'ai frappé, bien sûr, c'est vrai. Mais pour ce qu'on l'on paie, ne dites pas que je l'ai tué. Vous ne pouvez pas m'accuser.
Qui a tué des vimons?
Qui est responsable et pourquoi es-tu mort?
Qui a tué des vimons?
Qui a tué des vimons?
Qui est responsable et pourquoi es-tu mort?
Qui a tué des vimons?
Qui est responsable et pourquoi es-tu mort?
Mi tierra un campo grande que no tiene fronteras, árboles, pastos, cultivos, valles y praderas, flores, pantanos, ríos, mares, y la cordillera es habitada por animales que disfrutan, se liberan al contemplar y caminar por la montaña o por el mar. Veo colores que están vivos, amo que el aire respira, la lluvia cae y en mi
semilla enterrada. Miro al cielo, veo nubes, sale el sol y se aclara. Y en la orilla un arco iris colorea mi mirada. El horizonte es verde hasta los montes. También existe la arena y los cactus, pero pa'l norte. Mi país no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada. Solo creo en matar a la empresa privada. Y mi país no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada. Solo creo en matar a la empresa privada. Y pasan los años, yo observo la horrible devastación. El mar está contaminado, un pez ya se extinguió. Los pájaros cada vez menos, comienza la migración. Los valles y praderas, la hidroeléctrica inundó. Quise llorar al observar la montaña explotar. Las maquinarias invaden como en una guerra mundial. El casco blanco mandando al casco azul a trabajar, mientras varias especies luchan por dejar de agonizar. No veo el cielo, veo gris, la lluvia ácida caerá. Ya no veo bosque nativo, veo pinos en su lugar. Ya no existe el desierto, en medio mina atajo abierto. No hay semillas, los transgénicos mataron mi alimento. Y no, cambian el bosque por cemento en energía. Cambian el viento, usan animales para su experimento. Sacan oro, cobre, plata, parásitos, garrapatas. A mi tierra han enterrado, yo y la sacan barata. Empresas públicas, privadas, peor que las fuerzas armadas. No respetan al más débil, son la clase acomodada. Los patrones en sus cabezas, las monedas les interesan. Yo los llenaría de bombas o los quemo por sorpresa. Mi país no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada. Solo creo en matar a la empresa privada. Y mi país no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada. Solo creo en matar a la empresa privada. Y no.
Très chaud ce soir, mes pensées s'évaporent. C'est peut-être mieux, je pensais à toi encore. Au jour où je croyais avoir trouvé un trésor, finalement